est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la CNT Région Parisienne. L'émission du 1er, 3e, 4e et 5e lundi du mois.
1er, 3e, 5e.
Oui, oui, certainement, du mois. Et animé, comme à chaque fois, par ces militants sur leurs heures de loisirs et sur leurs heures de repos aussi. Voilà, ce soir, l'émission du Monde Merveilleux du Travail sera le troisième opus consacré à la propagande libertaire. Et nous aurons deux temps. Nous terminerons, je pense, sur les périodiques, avec une brillante intervention de Fabrice à la technique. Et ensuite, nous passerons à un petit survol des œuvres hein, de nos auteurs favoris. Bakounine, Stirner...
C'est bien la peine d'avoir un conducteur hein, pour ne pas le suivre. Et puis, on va passer à l'édito, peut-être.
Oui. Hein,
édito du 20 décembre 2021 du Monde Verru d'après. Troisième fournée consacrée à la propagande libertaire. Oui, comme toujours, on prévoit une émission, puis au cours de l'émission, une deuxième s'impose. Et en définitif, on en fait trois. Faut vous faire une raison, c'est nous qu'on décide. Cette dernière émission en direct de l'année 2021 s'augmente d'une nouvelle rubrique, le billet d'humeur. Donc, propagande libertaire, mais pas seulement, journalistique, hein, des écrits toujours, mais par opus, pour lesquels nous évoquerons leurs auteurs. Alors, comment susciter des vocations littéraires parmi les auditeurs? Vous le saurez en écoutant le merveilleux du travail, avec une plume d'oie, un encrier en main et avec un masque anti-Covid sur les oreilles. Eric, est-ce que tu peux nous rappeler le numéro du studio, s'il te plaît?
Oui, 01 43 71 89 40.
À appeler pendant les pauses musicales.
Oui, en fait, je vous disais ça, c'est surtout pour vous combler les trous, parce que...
Ah, très bien.
Faut que je fasse des recherches.
Très bien.
Bah, on pourrait se présenter déjà. Est-ce que tu as branché mon micro, le jaune?
Ouais.
D'accord. Bon. On pourrait se présenter.
Bah oui, ce soir... Ouais,
faites rapide maintenant, c'est oui. Bon.
Faites rapide.
Reste géant.
Et avant de se présenter, on va lancer la chronique du Mercator. Elle s'appelle... Elle a un nom aujourd'hui?
Qu'est-ce que le mercantilisme?
Ah.
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance, le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Ah ouais, patron, fais-nous plaisir et ferme ta gueule.
Amis auditeurs du monde merveilleux du travail, bonsoir. Qu'est-ce que le mercantilisme donc? Voilà une question pertinente, comme nous en posons systématiquement dans le monde merveilleux du travail, dont la réponse pourrait bouleverser en profondeur l'histoire du commerce et la pensée marchande pour longtemps. Qu'est-ce que le mercantilisme? Une doctrine, peut-être? Un gros mot? Vous brûlez. Une autre technique qu'ont utilisé les princes, les bourgeois et autres détenteurs des pouvoirs pour exploiter les travailleurs? Dans le mille, c'était trop facile. Le mercantilisme, d'un point de vue sémantique, c'est la quintessence du marchand, de la marchandise et du marché. Tout réside-t-il cependant dans le « isme », comme dans « fascisme », ou « onanisme », ou encore « strabisme » ? Et là, chers auditeurs maniaco-dépressifs du lundi, Vous sentez le mouvement imperceptible mais réel des sciences cognitives associées qui se meut, comme l'exprimait Marguerite à Fernandel, dans les méandres obscurs et malodorantes de vos consciences honteuses. Allons-y, chatouillons mollement nos curiosités lassivement installées entre les deux hémisphères cérébraux, au chaud, à 37 degrés 2, et pas que le matin. Le mercantilisme est un courant idéologique contemporain de la première période coloniale, en gros 16e, 18e siècle. Le commerce au long cours devait enrichir des États européens, autrement dit le commerce extérieur. Le commerce extérieur, une vieille connaissance dont les ministres et les élus de tout poil, aujourd'hui particulièrement, nous rebattent les oreilles tant il serait vital pour la France, mais i-an. En 2020, l'anus horribilis, alors l'anus horribilis, anus avec deux N, parce que l'anus avec un seul N ne concerne que les salariés sans pouvoir et les pauvres. Donc je reprends, en 2020, l'anus horribilis aurait vu le solde du commerce extérieur de la France afficher un déficit de 82,6 milliards d'euros, selon l'INSEE. En clair, nous importâmes en valeur plus que nous n'exportâmes. C'est pas bien. Voyez nos voisins d'Europe comme ils furent plus performants que nous. Les Belges, plus 21,7 milliards, les Italiens, plus 63,6, les Allemands, plus 183,2. Pourtant, que d'efforts hexagonaux. Les produits pharmaceutiques français enregistrèrent en 2020 un record X historique à l'exportation, plus 4,7%, soit 35,4 milliards, alors que notre pays n'avait pas assez de masques, ni assez d'anesthésiants, ni assez de paracétamol. Mortel, non? Mais revenons à nos marchands.
Oui, c'est mortel le paracétamol, effectivement.
Le premier théoricien du mercantilisme fut qui? Michael? Le premier théoricien du mercantilisme.
Oula, c'était bien avant Adam Smith, hein?
Oui. Antonio Serra. J'en ai parlé dans une ancienne chronique, mais personne ne les écoute. Par ailleurs, sujet espagnol. C'était un Calabrais, par ailleurs, sujet espagnol. Donc un homme ambigu, par-dessus tout. Néanmoins, c'est Mirabeau qui aurait employé le terme de mercantilisme vers 1760 pour la première fois.
C'est ce qui me semblait aussi.
Avant que d'être nommé, le mercantilisme s'éprouva en un agglomérat de soi-disant bonnes pratiques en matière commerciale. En clair, le prince s'appuie sur la classe des marchands et favorise l'activité industrielle et commerciale dont il tire l'or qui lui garantit la pérennité du pouvoir qu'il a acquis par les armes et par le biais de l'impôt. L'or, plus généralement les métaux précieux, est réinjecté dans l'économie pour la guerre, essentiellement. Car l'or sert à payer les mercenaires qui combattent pour accroître la puissance du prince et développer le commerce. Dans les conquêtes, en faveur aussi des attributs de la puissance souveraine, hein, l'appara, et cela lui donne les clés de la domination sur les ploucs. Autrement dit, 85% du troupeau étaient des paysans.
Et peones.
Si le mercantilisme fut d'abord porté par un courant bullioniste, attends, c'est assez dur ça, je pense à Jean Bodin pour les Français, à Thomas Gresham pour les Anglais, le bullionisme mesurait le pouvoir d'un État par la quantité d'or qu'il possédait. Au siècle suivant, c'est-à-dire au XVIIe siècle, pour ceux qui suivent, sous son acceptation colbertiste, il développe davantage le protectionnisme et l'agressivité à l'exportation. On aura besoin de Colbert aujourd'hui. Quand on est nul en produits à exporter, on exporte quand même, grâce à la pression de ses armées. D'où l'intérêt d'avoir des armées fortes.
C'est-à-dire que les armées vont créer de nouveaux champs de commerce à l'extérieur?
Exactement. La France vend donc aux petits États voisins, petits du point de vue de leurs ressources, de leur étendue et de leur démographie, qu'elle envahit ou qu'elle menace s'ils ne se montrent pas assez coopératifs. Je pense à la Savoie, aux Pays-Bas ou encore à la Westphalie. L'État fait le commerce, car le prince fait le commerce autant que les marchands qui se servent tout en servant le prince. Le mercantilisme, c'est donc aussi une alliance de bandits exploiteurs des masses au moyen de la force et de l'argent, une alliance promise à un bel avenir. De fait, le libéralisme économique pourrait bien être un enfant légitime du mercantilisme d'antan, lequel s'appuie aussi sur des innovations techniques, la force militaire, la puissance de feu, les conditions socio-géographiques nouvelles et des outils techniques qui s'améliorent. On pense au gouvernail d'Étambeau. Étambeau, il a davantage de succès, bien sûr. La comptabilité en partie double. Les sociétés par action, qui évitent les grands transferts d'argent, c'est les écritures. Le développement des centres urbains, gros consommateurs. Et enfin, l'essor des États-nations, qui permettent de sécuriser des circuits commerciaux.
Et puis, le développement des centres urbains, c'est aussi la perte d'indépendance. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien, on est obligé de tout acheter à l'extérieur.
Et donc une dépendance, effectivement, des campagnes à l'égard des centres urbains qui deviennent des centres de pouvoir. Parmi les conséquences de ce mercantilisme en construction, nous trouvons l'impérialisme et parfois son corollaire, le colonialisme, mais aussi le capitalisme et l'individualisme, qui connaît ce dernier un grand essor à la naissance du protestantisme au XVIe siècle. Donc il y a une conjonction de facteurs qui vont faire naître le libéralisme économique dans son expression la plus moderne.
Et la plus sauvage.
L'un des premiers philosophes contractualistes, dont on reparlera certainement, Thomas Hobbes, a bien traduit cet état d'esprit qui ne jure que par le salut individuel. Dans le Léviathan, par exemple, en 1651, mais il avait déjà commencé 10 ans auparavant dans Du citoyen. Ça fait plaisir à Fabrice. Le mercantilisme, c'est la prospérité du prince et du marchand grâce à une politique de salaire maintenue volontairement bas. On a ça dans Du citoyen. Une alternative pas bien neuve, travailler toujours plus pour survivre ou bien voler, mourir d'épuisement ou bien pendu au gibet de Montfaucon. C'était le travailler plus pour gagner plus du XVIIe siècle.
Pour dépenser plus.
Mais bien sûr. Et dire que certains pensaient que c'était une idée de M. Sarkozy ou que M. Sarkozy avait des idées. Les naïfs. François de Salignac de la Motte Fénelon. Petite révérence, hein, Fabrice, je vois bien que tu ne vas pas te coincer le dos, s'il te plaît. A écrit « C'est la mollesse et l'oisiveté qui rendent les peuples insolents et rebelles ». Il a écrit ça en 1699, hein, c'est pas jeune, dans les aventures de Télémaque. J'ai relu une partie de l'ouvrage, c'est assez édifiant. Cette maxime profonde a fait florès chez les chantres du libéralisme capitaliste jusqu'à aujourd'hui. Le reste, bien sûr, n'est que modalité et variable d'ajustement. Pour l'anecdote, Colbert laissa les enfants dès l'âge de 6 ans travailler dans les manufactures royales. Travailler jeune pour ne pas mourir vieux. Autre maxime qui reviendrait à la mode chez les partisans du retour de l'apprentissage dès 14 ans. Et oui, comment veux-tu te glisser prestement sous un métier à tisser en panne pour récupérer une navette coincée si tu mesures 1m65 et que tu pèses 210 livres de mauvaise viande et que tu es doté de gros doigts gourds, alors qu'un gamin de 6 ans, rachitique mais vif. Bon d'accord, celui-ci n'était pas assez vif, puisque ce maladroit incompétent vient de se faire couper en deux par la courroie d'entraînement en cuir. Bah, tant que le peu de sang qu'il contenait ne tâche pas le tissu, tu peux avantageusement le remplacer par sa petite sœur de 5 ans, émerveillée par le mouvement des outils et l'apparition du tissage aux couleurs chatoyantes.
La magie de l'entreprise.
Bien sûr. L'alliance subtile du jeu et du labeur contre un quignon de pain, une écuelle d'eau et ses différents pucelages. Dire qu'aujourd'hui les jeunes de 16 ans renâclent à l'apprentissage sous la protection du code du travail à trous, quelle époque. Allez, à bientôt, et arrêtez d'acheter tout le temps, n'importe quoi, n'importe comment, et joyeux bordel.
Alors Eric, tu vas nous expliquer le pourquoi de cette musique? Parce que tu l'as imposé.
Ouais, j'ai imposé. Bah oui, c'est un titre d'ACDC, des derniers titres d'ACDC. Bah, c'est une chanson qui traite de personnes qui ont disparu et voilà, à qui on a passé des bons moments. Moi, ça m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, voilà, sur des copains d'une autre époque, d'un autre temps, qui dont un des derniers a disparu il y a très peu de temps. Voilà, j'en dirai pas plus. Parce qu'on...
Bon. Bon, c'était séquence émotion, voilà. On repart sur la propagande libertaire.
C'est parti.
Hein, il est ému.
Oui.
Il sait plus.
Ah, ben je ne sais plus. Par contre, je suis là pour dire que vous écoutez bien Radio Libertaire, 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bonjour, bonsoir à tous.
La Fédération anarchiste.
De la Fédération anarchiste.
Disons-le.
Et vous êtes dans une émission du Monde Merveilleux du Travail de la CNT.
Alors, qu'y a-t-il aujourd'hui autour de la table?
Présentons.
Alors, Michael, invité permanent. On va dire ça comme ça.
Quand il vient?
Quand il n'est pas malade ou trop déprimé pour venir.
C'est pas plus mal que t'es pas. En fait, t'as pas écouté la dernière émission, mais c'est pas plus mal.
Là, j'ai écouté l'avant-dernière, j'ai pas encore eu le temps d'écouter la dernière. Parce que je suis pas connecté beaucoup. Et puis, une autre invitée, Agnès, bonsoir.
Bonsoir.
Ah ben, hey.
Micro, micro rouge, pas, micro rouge.
Ouais. Bonsoir.
Voilà, qui avec sa voix charmante vient nous charmer, pas seulement qu'avec la voix. Et donc c'est une auditrice fidèle qui a eu la gentillesse de venir nous rendre visite, voilà.
Ouais. Bon. Bienvenue à bord du bateau ivre.
Ah oui.
Oh, oui. Hey. Alors, et bonsoir Eric.
Eric va nous animer encore l'émission.
Bon, ici, oui. Hein,
ainsi que Fabrice d'ailleurs, de manière magnifique comme d'habitude.
Il est beau, il est beau derrière son pupitre.
Il est beau. En plus, malade, alors il a de la fièvre. S'il dit des bêtises, c'est parce qu'il a de la fièvre.
Il est beau, héroïque.
Mais on l'a confiné dans le bocal avec un masque partout. Voilà. Et des gants.
Et des gants.
C'est très élégant.
Oh.
Voilà.
Bon. Bonjour. Aujourd'hui, comme dit en début d'émission assez maladroitement, parce que évidemment ici on ne suit tout rien en fait, on fait rien. Et l'émission est le troisième opus sur la propagande libertaire. Dans un premier temps, je crois que c'est important de peut-être pas clore, mais en tout cas clore provisoirement la partie concernant les périodiques dont on n'avait pas tout dit lors de notre dernière émission.
Alors les périodiques, on peut pas, de toute façon pas tout dire sur les périodiques. Alors moi je pense qu'on peut. Alors dans les périodiques s'expriment un certain nombre de personnes et notamment aussi des chansonniers. Ce que je pense, moi je pense et je suis sûr d'ailleurs que dans la propagande syndicale libertaire, en tout cas du 19e siècle, un des moyens de mieux un des bons moyens de faire passer les messages était aussi la chanson. Mmh. Alors, l'international, par exemple.
Mmh. Oui. Sachant que, bien souvent, il y avait quelques airs, et puis sur un air, on pouvait calquer plusieurs paroles, plusieurs chansons, en fait, sur le même air, quoi.
Oui,
ça. Ce qui fait que tout le monde connaît la musique, et puis il n'y a que les paroles à changer.
Mmh. Alors, c'est vrai que l'international a été écrite sur l'air de la Marseillaise.
Ouais.
Ce n'est que quelques années plus tard qu'elle aura sa propre musique. Mmh. Voilà, donc je me disais, alors la propagande, elle est faite par un certain nombre d'auteurs qui écrivent dedans, enfin d'auteurs, on va dire journalistes, qui sont aussi quelquefois par ailleurs chansonniers. Et des éléments qui peuvent aussi attirer le chaland, c'est les artistes qui s'expriment dedans, comme les dessinateurs.
Les dessinateurs de presse, déjà.
Les dessinateurs de presse. Donc
ou d'affiches.
Hein. Les affichistes aussi.
Ouais.
Et qui collaborent à différents travaux, à différents journaux, pardon.
Parmi lesquels dis-nous, le crapouillot.
Le
allez.
Crapouillot, le crapouillot.
Non, pas que j'ai pas le crapouillot. Non, on a par exemple, c'est Maximilien Luce, qui, je sais plus si on l'a évoqué la dernière fois, mais qui a travaillé avec Jean Grave dans les temps nouveaux.
Nouveau, oui.
Voilà. Et il a travaillé aussi pour la Bataille syndicaliste, journal de la CGT-SR. Je crois que la dernière fois, on s'était un petit peu emmêlé les pédales. Mais la Bataille syndicaliste, c'est bien le journal de la... ça a été le journal de la CGT syndicaliste révolutionnaire, la tendance syndicaliste révolutionnaire. Parce que
de l'entre-deux-guerres.
La CGT-SR en propre a eu son combat syndicaliste.
Qui existe encore, et toujours.
J'ai même un exemplaire de la bataille syndicaliste.
Les deux étaient contemporains dans les années 20.
Oui, il y a eu plein de journaux qui se sont. Alors, en fait, chaque tendance. Pardon. Chaque tendance avait son.
Et dis-moi, c'était des petits journaux, genre un 4 pages, une grande feuille pliée.
4 pages.
Hein oui, enfin, grande feuille de journal pliée en deux, quoi. En général.
Ouais, ça fait...
Voilà.
C'est ça, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors vous pouvez pas voir, chers auditeurs, on a un exemplaire, là. Un facsimilé, enfin, comment on dit, un facsimilé.
Oui.
Oui, ce qui fait qu'en fait... C'est...
Alors, faut avoir de bons yeux, quand même.
Ce qui fait que c'est peu cher à produire, c'est une seule feuille, recto verso, il n'y a pas de pliage spécifique, il n'y a pas de... Ouais. à raccorder la page 1 avec la page 3, etc.,
c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas super pratique.
Non, c'est pas pratique. C'est pas le Parisien, c'est sûr.
C'est pas. Bref.
Donc, la bataille syndicaliste, pardon.
Il faut que je fasse l'émission, quoi.
Bah, on attend
tes
lumières.
Et un petit café pour moi, s'il te plaît.
Non, alors bon, j'ai évoqué les temps nouveaux, donc il y a des artistes comme Maximilien Huss qui sont affichistes, qui sont peintres, engagés, anarchistes, enfin en tout cas militants libertaires, mais qui peuvent prendre. Bah, alors, c'est vrai que la dernière fois, on a expliqué que les journaux effectivement défendaient soit l'individualisme, soit le communisme anarchiste. Et puis le syndicalisme révolutionnaire quand ça s'est créé. Mais en fait, il n'y a pas précisément de parti. Donc effectivement, les anarchistes qui sont les libertaires, les anarchistes qui sont qui eux ne produisent pas de littérature, mais qui la lisent. En fait, se groupent plutôt derrière un journal. Parce qu'il n'y a pas de parti, en fait, en soi. Donc,
c'est une nébuleuse.
C'est une nébuleuse, ouais. Donc, et ceux qui dirigent les journaux, ou ceux qui ont plus d'attrait par leur plume, eh ben, ce sont eux qui font, non pas un parti, parce que ça n'existe pas chez les anars, mais c'est eux qui font la tendance.
Et puis, c'est pas, il n'y a rien de. Enfin, il y en a exceptionnel, puisque en cette fin du 19e siècle, même la notion de parti est quelque chose qui n'est pas encore fixé. Hein.
Ouais, c'est vraiment dit. Ouais. Vraiment la fin du 19e siècle.
Exactement.
Ça, avec des gays, Jules Guez, et puis.
Voilà, on commence à avoir des statuts, une organisation, un bureau, etc. Avant, bon, il y avait des réunions informelles autour d'un leader ou d'un groupe de leaders. D'orateurs souvent et puis c'était les effectifs étaient très très mobiles, très éphémères parfois.
Puis c'était l'esprit fédération plutôt qu'un seul gros groupe, c'est des petits groupes qui se retrouvaient sur des actions ou sur des congrès.
De toute façon, c'est le militantisme, c'est un militantisme de convaincus, donc quelle que soit la tendance, ici chez les libertaires peut-être davantage, parce qu'il y a l'individualisme qui était quand même très 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 prégnant, mais dans toutes les tendances, on faisait un passage dans une structure sans vraiment avoir ni une carte d'adhérent, ni vraiment suivre une doctrine, ni ou alors il fallait avoir avalé un certain nombre d'ouvrages un peu solides. Il n'y avait pas de bréviaire, un peu comme on peut avoir dans les statuts les statuts de la Confédération nationale du travail. On a des statuts. Il faudra attendre l'extrême fin, comme disait Fabrice, l'extrême fin du 19e siècle, pour avoir des structures administratives et juridiques qu'on appellera parti, ou même si ça porte le nom de mouvement ou d'organisation. Une structure plutôt fixe.
Pour parler moderne, c'était des influenceurs, en fait. Comme Bakounine, par exemple, il traînait du monde derrière lui avec les journaux qu'il pouvait créer et faire passer.
Oui, et puis on en donnait dans la presse, on l'a vu dès les années 1840. La presse est feuilletoniste à cette époque-là. Donc on avait des extraits, c'était très cher de publier un ouvrage et de faire diffuser, surtout quand on était dans les milieux libertaires. Mais dans d'autres milieux aussi, alors on donnait à la presse et on était rémunéré pour ça. Ça permettait de manger tous les jours. Parce que tu sors un bouquin, tu sors pas un bouquin tous les jours. Donc il faut quand même l'écrire. Hein. Tout le monde n'est pas Balzac. Et puis il fallait ensuite, l'argent, on feuilletonnait, on cachetonne, quoi. On cachetonne. Alors il y a des journaux les plus militants. Je ne sais pas ce que Bakounine, Kropotkine, Stirner, Proudhon ont pu tirer comme revenu de leurs encarts dans la presse, dans les différents organes de presse libertaire. Ça pourrait être l'objet d'une étude, mais ils ne devaient pas manger tous les jours à leur faim, quoi, si c'était leur seul revenu.
Alors Stirner, je ne pense pas, puisque je crois que c'est pas vraiment sorti du.
J'ai lu l'autobiographie de Bakounine. Il disait que c'était suffisant. C'est-à-dire que suffisant, bon, s'il crée son propre journal, suffisant à ce qu'il continue et à ce qu'il puisse se payer son loyer, sa bouffe. Mais en général, il travaillait à côté. Hein. C'était des ouvriers payés à la tâche ou des petits ouvriers. Bon, c'est bon.
Oui, pour Stirner, c'est plutôt la postérité hein, qui va le. Qui ne va pas le rendre riche. mais qu'il aura, ouais, qu'il aura pas rendu riche, mais son vivant, je suis pas sûr, c'est pas vraiment sorti de la localité allemande, l'unique est sa propriété. Et je pense que si Marx n'avait pas écrit, c'est la Sainte Famille, c'est pas ça, non? On n'aurait peut-être même pas entendu parler. Parce que ça n'a pas été traduit en France avant 1901, semble-t-il.
Ouais, j'en suis sûr. Il y a des extraits à partir des années 1890, effectivement.
Oui, on peut trouver peut-être des extraits.
Mais l'ouvrage en entier, non, il n'a pas été traduit tout de suite. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il était allemand. Alors, c'était beaucoup plus facile de trouver des ouvrages d'auteurs, polonais, russes, italiens, des Allemands, enfin, tout ce qui venait de l'espace germanique. Traduire ça en France, c'était délicat. Parce qu'ils n'avaient pas. Il y avait un anti-germanisme français qui était assez.
Quelle indignité.
Après, l'unique sa propriété, c'est 1848. Hein.
44.
Oui, on n'est plus à 4 ans près. On n'est pas en 1870 non plus.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il a. Mais bon. Entre le moment où il l'a écrit, il l'a publié, le moment où il a été diffusé à l'international, c'était déjà, de par ses idées, il n'était pas diffusable auprès du plus grand public. C'est quand même assez. Il touchait un public restreint. Hein. Puis alors, quand t'es. C'était la montée, il ne faut pas oublier qu'il a publié ça dans les années qui ont suivi. Il y avait quand même une politique de réunification allemande. Du côté prussien, qui n'a pas facilité, on va dire, le regard des Français, du public français, mais aussi des éditeurs français vis-à-vis de la production allemande. Et après, en 1871, etc. Après, ça a mis 20 ans pour qu'on commence un petit peu à s'y intéresser. Et c'est le mouvement libertaire anarchiste français qui va favoriser la diffusion de ses écrits, donc
traduction.
Sa traduction, au départ, à la fin des années 1880, des années 90, parce que le mouvement anarchiste va être très, très, en tout cas très visible, très, très en vogue, je dirais pas ça, mais en tout cas, qui va se faire connaître et que malgré tout, des bombinettes, des attentats, des arrestations, des grands titres de la presse sur parfois presque rien. Ça va éveiller la curiosité des ouvriers français.
C'est un effet qu'on, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le nom d'une chanteuse qu'on avait calomniée, et puis du coup tout le monde s'est intéressé à elle. Ouais. On peut dire du mal, c'est toujours de la publicité.
Alors, ça ne veut pas dire non plus que on s'intéressait de près à ces textes. C'est encore autre chose. Hein. On aura surtout des intellectuels français, socialistes, plutôt socialistes révolutionnaires, quoi, qui vont s'intéresser aux écrits de Stirner et favoriser sa traduction, l'intégration intégrale de son œuvre. Mais le temps aura passé, hein, on l'avait dit dans une première émission, je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand il est publié au début du XXe siècle, après, son impact n'est plus le même. On est passé dans un autre monde où on est...
Déjà, Stirner n'est pas à proprement parler un anarchiste. Sa philosophie, ça participe... à l'idée anarchiste, mais lui-même, je crois que d'ailleurs il ne se considérait pas comme tel. C'est un ouvrage libertaire, mais pas anarchiste. Après, effectivement, pour ceux qui ont lu l'ouvrage, L'unique et sa propriété, certains ont pu faire des rapprochements entre ce qui était dit sur le et la propagande par le fait. Des années 1890. Donc, c'est cette approche qu'on peut qualifier d'anarchiste, d'anarchisant, et c'est peut-être aussi pour ça que après, on a peut-être lâché un petit peu le morceau, parce que c'était plus très bankable, quoi.
C'est un individualiste avant tout, hein. Il y a un individualiste et puis il avait le refus de tout type d'autorité, ce qui veut dire que c'était pas spécialement quelqu'un, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec qui on pouvait construire un projet de société, puisque lui son idée c'était d'en sortir, quoi. Il avait une critique très alors en plus son bouquin c'est un recueil d'articles, hein, c'est un puzzle, hein. On essaie de donner un peu, quand il a été publié, on essaie de donner un petit peu d'une cohérence à tout ça, mais c'est un recueil d'articles et c'est un bonhomme contre tout et tout le monde. Difficilement agrégeable. Mais bon, c'est vrai que tu as raison, ça a influencé, en tout cas, je pense qu'il y a eu une influence sur le mouvement libertaire, en tout cas français. Alors, peut-être pas dans sa radicalité, mais encore que.
Je pense que. Je peux pas le garantir, effectivement. Mais bon. Mais je pense que oui, si des extraits ont été diffusés, on aurait très bien pu s'en servir pour.
Alors, j'en ai pas vu. Est-ce que tu en as vu, toi, dans la presse qu'on a évoquée? Moi, je n'avais pas vu de traduction de Stirner. Il y a de la réclame. Hein. Pour son bouquin, mais en allemand, effectivement, dans les années 1875-1880. J'ai vu deux de mémoire, deux petits encarts pour vanter son bouquin, quoi, essayer de le faire vendre. Alors, je ne sais pas si ça a été une grosse... grosse réussite. Mais enfin bon, il est pas. C'est pas le truc que la presse libertaire a vendu le plus. Quoi.
Alors, est-ce que la presse libertaire a vendu beaucoup de plein de choses d'ailleurs? Parce que même les ouvrages de Bakounine, me semble-t-il, je crois qu'il y en a peut-être un seul qui est sorti de son vivant, qui a été publié, une des œuvres. Tout le reste, c'est... on va dire, c'est posthume. Non, je sais pas si...
J'ai fait des petites fiches sur... Il me semble qu'il n'y en a pas du tout, moi, de Bakounine. J'en ai pas... Je sais pas.
Il y a juste une... Alors, je sais plus, je dois l'avoir chez moi, en plus. Mais de son vivant, il y en a un qui est sorti, mais vraiment quelques années avant sa mort, quoi.
Moi, je sais qu'il y en a un, c'est Dieu et l'État. Mais je crois qu'il est publié... Enfin, la traduction, en tout cas, est posthume. Et c'est, ça, par contre, c'est un gros... C'est un ouvrage important, je l'ai dans sa philosophie anarchiste. Mais après, les autres... J'ai pas souvenir. Je regarde brièvement dans les bouquins que j'ai pu.
Ça va être plus sa participation à des brochures qui vont participer à.
Oui, puis la création même carrément de petites brochures, hein, de petits journaux qui durent jusqu'à ce que la préfecture vienne fermer la chose, quoi. Mais jusqu'à ce qu'il participe. C'est un procès de Lyon, le procès des 10, des 9, je sais plus.
À Lyon, il y a les 66, on l'évoquait aussi. Mais je sais pas, oui, il y a peut-être des procès un petit peu de tous les chiffres. Hein.
Ouais, on a eu beaucoup. Enfin, qu'il l'avait emmené en prison, là, du côté de Nantes, ou je sais plus d'où. Si. Qu'après, ils avaient transformé en centre pour enfants. Enfin, c'est une autre histoire. Ouais. J'adore l'État, merci l'État. Toujours à la pointe du harcèlement moral.
Bon. Éric ?
Ben non, Bakounine, effectivement, ouais. Dieu et l'État, c'est posthume. Donc,
il n'y a qu'une œuvre qui est sortie de son vivant.
En français, bon. Sinon, il y a d'autres... Alors, c'est essentiellement des Russes, hein, la Kropotkine aussi, qui a publié un peu plus tardivement, comme La morale anarchiste, je crois que 1889. Donc c'est ben là on est dans la période Bakounine, c'est une espèce de précurseur lointain qui a peut-être pas eu autant d'influence en tout cas de son vivant. Faut pas croire non plus que Marx en a eu beaucoup, hein. C'est pas un anarchiste, mais il était loin, même s'il était de toute façon, il avait passé son temps en exil, nourri par les économies et la fortune de sa femme. Mais bon, il n'était pas quelqu'un d'influent. Faut pas dans le mouvement ouvrier. Hein. Le mouvement ouvrier français s'est construit un peu tout seul, au gré de ses expériences. Hein, 1830, on parlait beaucoup plus de la grande révolution, puis de la révolution de 1830, puis de la révolution de 1848 que de Karl Marx. Hein, faut quand même faut rendre à César ce qui lui appartient. Hein.
Je suis d'accord.
Les journaux qu'on a pu citer, c'est souvent le fait. D'ailleurs, il n'y a pas de référence à ces grands hommes. Alors à Marx, pas du tout, hein, ou très peu, par un peu davantage à Bakounine, davantage à Proudhon, parce que Proudhon d'abord est français, on le lit, il est plus accessible, il a été plus diffusé.
Puis il y avait des Proudhoniens.
Oui, voilà, puis il y avait des Proudhoniens. Et on est quand même, faut pas oublier qu'on est dans une
des Jurassiens aussi.
On est dans une société, quand même très franco-française, hein, donc en termes d'attache culturelle. Donc les Russes, alors les Allemands, en parlons pas, les Russes, c'est ça reste un peu le folklore.
La Fédération du Jura, les Suisses.
Oui, mais c'est pareil, ça reste relativement anecdotique et très, très géolocalisé. Quoi.
Oui, mais ça a quand même eu une influence sur Bakounine, par exemple, qui allait les voir, qui a ressorti des choses qu'il a ramenées après là où il était. Sur les modes d'organisation. Je m'avance un peu.
Je te laisse libre.
Merci.
Ouais,
enfin, en tout cas, il les cite souvent dans ce que j'ai vu de lui.
Il me semble que la Fédération Jurassienne, c'est lui qui l'a créée. Hein.
C'est lui qui l'a créée, carrément.
Oui.
Je crois que...
C'est pour avoir des droits.
Oui, ouais. Je te laisse.
Bon, tu vois.
C'est pour ça que je faisais les gros yeux, là, derrière moi.
Oui, je suis. D'accord.
Ça, parce que monsieur vient du Jura.
Donc, puis, y a, moi, là, au-delà des théoriciens, il y a aussi des. Bon, j'en avais parlé la dernière fois. Il y a le roman aussi, petit roman. Alors, roman, c'est pareil. Hein, le roman, c'est du feuilleton dans la presse. Un journal acheté, c'est souvent 8-12 lecteurs, ou en tout cas auditeurs, puisqu'il y a celui qui lit l'article, qui lit parfois avec difficulté, mais bon, quand même. Et ce qui veut dire que le travail de la mémoire, il est plus important, et ça permet de diffuser des idées. Moi, j'ai retenu un roman que je vais ajouter à la liste. Et parce que le titre me plaît. Le titre me plaît d'autant plus que, me semble-t-il, il y a des appels à la grève pour janvier dans le monde syndical. Il y a des appels à la grève pour janvier liés, on n'a pas de pognon, donnez-nous de l'argent, plein de choses comme ça, l'inflation, des trucs comme ça. Ça commence un peu à...
C'est actuel.
Oui, ça se dure depuis longtemps aussi. Oui. Donc, La Grande Grève, un titre d'un roman publié en 1905 et dont l'auteur est un anarchiste, Charles Malato. Question pour notre référence bibliographique, Fabrice. Ça te parle, Charles Malato?
Oui, Charles Malato, oui.
Voilà. La Grande Grève, ça te parle aussi, La Grande Grève?
Moins.
Il a écrit un roman, et c'est un roman social. Il a été publié, visiblement ça a bien fonctionné. Il a été fortement diffusé, en feuilleton, et puis après en édition molle. Hein. Tout papier un peu... à l'époque, c'est papier... C'est du papier mécanique, d'impression mécanique sur papier à base de vieux tissus, de torchons, de pâte. Ça tient pas la route. Hein. Ça résiste pas à l'humidité, ça résiste pas, ça devient cassant. Donc très rapidement, c'est des ouvrages qui... Il n'en reste plus beaucoup d'exemplaires en circulation, sauf dans les bibliothèques, parce que c'est des ouvrages pas chers, mais qui n'ont pas vécu très longtemps. Il n'y a que les premières éditions avec... Couverture rigide qui ont survécu, mais à l'intérieur pour avoir regardé cet ouvrage en bibliothèque,
c'est jaune marron,
ça sent pas bon, c'est jaune, très jaune et cassant. Souvent on est autorisé qu'à l'avoir en manipulation surveillée, quoi. Donc voilà, c'était c'est à dire aussi pas cher, pour être diffusé au plus grand nombre. C'était à la demande de Malato, pas de très bonne qualité. Alors, il fallait lire, et puis...
Je voudrais dire aux auditeurs, parce que comme on a cité Jean Grave, Kropotkine, Malato, il ne faudrait pas croire qu'on fasse partie de cette tendance qui s'est ralliée à l'Union Sacrée pendant la...
Partout.
Non, c'est le hasard qui fait les choses, mais donc effectivement dans les temps nouveaux, ces trois-là notamment sur les 15, parce qu'on dit qu'ils étaient le manifeste des 16, mais en fait il y en a que 15 qui l'ont vraiment signé. Parce qu'il y en a un, ça s'est glissé un petit peu, bref. Et puis un autre, bref. On va dire qu'ils sont 14, on appelle le manifeste des 16, qui ont soutenu en fait la guerre contre l'Allemagne en 14-18.
Ça, c'est trop bien. Ça.
Après, c'est un point de vue.
Ouais, c'est leur choix. Hein.
Ce qui n'est pas bien, c'est effectivement. En fin de compte, c'est comme s'ils avaient soutenu les capitalistes.
Exactement.
Des gens qui se connaissent bien et qui se restent en sécurité, qui vont envoyer des gens qui se connaissent,
des gens qui se connaissent mal et qui sont ouvriers. Voilà. Bravo. Non, mais je suis bien d'accord.
Et du coup, on empêche la traduction de Stirner dès le départ. Ça a des conséquences culturelles énormes.
Je crois que l'idée qu'ils avaient derrière, c'était qu'effectivement le monde capitaliste allait s'effondrer là-dessus, sûrement. par là-dessus. Bon,
ouais, je sais pas.
C'était mal connaître les capitalistes.
Ouais.
Donc voilà, donc nous ne sommes pas une tendance individualiste qui soutient les gouvernements.
Ouais.
Sacré. Bon, bref.
Heureusement, sinon on serait pas dans un syndicat anarcho-syndicaliste révolutionnaire.
Hein. Ouais, bon, ça. Et après la guerre de 14-18, justement, les temps nouveaux ne feront que justifier leur prise de position en 14, quoi.
Ouais.
C'est.
Bref. Et par contre, faut le dire, en contrepoint, il y avait des journaux qui étaient hostiles à l'Union Sacrée.
Et oui, qui étaient. Hostile, bah bien sûr, oui. La plupart des libertaires, des anars, oui, étaient hostiles. Mmh. Et je ne sais plus lequel s'en prenait aussi directement au temps nouveau. Je ne sais plus. On pourrait le savoir si je faisais mes petites recherches pendant une pause musicale.
Mmh. Par exemple.
On va faire ça.
Ah, n'hésitez pas à appeler. Ou 01 43 71 89 40.
Vous venez d'entendre le sang des martyrs, interprété par les amis de ta femme. Ça t'amuse.
Ouais.
Tu viens de causer deux mots.
Je les connaissais pas.
Bon, en tout cas, j'ai vraiment cherché, pendant la pause musicale, qui était le journal qui s'opposait au manifeste des 16. Et donc, c'est ce qu'il faut dire. Voilà. A été fondé en 1916, début 1916, par Mauritius et Sébastien Faure. Mmh. Voilà. Voilà, c'était déjà évoqué la dernière fois, d'ailleurs, je ne sais plus.
Non. Redis-le, redonne le titre.
Ce qu'il faut dire. C'est un journal antimilitariste et pacifiste.
Ouais. C'est un périodique. Combien de numéros, tu sais?
C'est un hebdomadaire. Qui coûtait 10 centimes. Je ne sais pas combien de numéros. Mais. Je ne sais plus.
Parce qu'il y en a un autre qui existe maintenant, c'est QFD aussi, mais ce qu'il faut détruire.
Ouais, mais non. Des tirages qui atteignaient 12 000, 20 000 exemplaires.
C'est énorme.
Ouais, ça fait 2 millions d'auditeurs, ça, oui. Enfin, à la jauge d'Eric.
200 000.
Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. C'est moins. C'est du 2 avril au 22 décembre 2017.
Ah, ok.
Avril
2000, non, 2016.
2016 jusqu'à
décembre 2017.
Oui, en fait, c'est à la veille des mutineries, parce que les mutineries, c'était avril 1917. J'arrive plus à les siècles. Ah oui, c'était. Finalement, c'est peut-être aussi un des ressorts qui a favorisé les mutineries en 17.
Accompagné peut-être.
Je sais pas, à un moment donné, il y a bien des soldats qui lisaient en rentrant dans leur foyer, qui lisaient ou dont les copains lisaient, ou les aînés, ou des gens qui étaient à l'usine, les ouvriers lisaient et on parlait. Enfin, je veux dire, c'est pas impossible ça. Donc, c'est une piste à creuser. Une piste à creuser.
Pour ton prochain ouvrage historique.
Ouais. On va foutre sur la gueule, c'est con. c'est le côté blanquiste qui ressort là, ça affleure, hein. Bon,
on était un petit peu sur tout en fait. Hein. Je dirais pas qu'on parle en tous les sens, mais un petit peu quand même.
Pas
hein.
du tout.
C'est anarchique comme.
Ouais, mais c'est très bien.
Hein,
c'est très bien.
C'est s'il nous plaît.
D'anarchie.
Donc on était. était sur les,
non, c'est pas
sur les opus. C'est pas?
Non, c'est pas anarchique. Non.
Non, mais moi, c'est pas une insulte.
Bon, alors, autre ouvrage, moi, qui m'a plu aussi, que je n'ai pas lu, mais que je me promets de lire, c'est de Kropotkine, La conquête du pain. Parce que ça, c'est emblématique. Le pain. Pain qui a donné compagnon, qui a donné...
Copain.
Bon. Publié en 1892.
Ça, vous le trouvez chez Publico, 145 rue Amelot.
Ah, bah voilà, ça c'est de la bonne pub.
C'est bien.
La bonne réclame.
Redis-le.
On le redira après.
Donc voilà, ça c'est mon prochain achat. Bon, le Père Noël, si t'as une petite idée, tu vois, si t'as pas d'idée, c'est le moment. C'est pas le type Père Noël, écoute.
Conquête du pain. Ouais.
Non, il t'écoute pas.
C'est une très bonne boulangerie. Rentreuil aussi, la conquête du pain.
Voilà, donc. Et puis des ouvrages, donc, Kropotkine, mais on va faire un petit saut dans le futur aussi. Toujours dans ce fil de conducteur qui n'en est pas un. Moi, j'ai bien aimé, j'ai lu quelques extraits de L'abolition du travail, qui est très récent. Alors, je ne sais pas si c'est un anarchiste. Travailler, moi, jamais. Sous-titré Travailler, moi, jamais.
Bravo.
De Bob Black, écrit en 1985, que je ne connaissais pas. C'est un pamphlet contre le travail, la misère et les nuisances du salariat. Donc, mais j'ai pu le lire qu'en bibliothèque parce que, enfin, parce que j'ai pas trouvé à l'acheter non plus.
Bon bah, petit papa Noël, moi ça m'intéresse. Hein.
Et ça, il y a quand même des choses assez croustillantes.
Non, pas toi, Fabrice.
Pour que le Père Noël vous fasse des cadeaux, faut déjà avoir été sage. Mais c'est pas votre cas, donc
vous n'aurez rien. Sage.
Parce que je le prends pour moi quand même.
Bon, ça c'est un. Je pense que c'est une.
Tu peux redire le titre.
L'abolition du travail, le sous-titre Travailler moi jamais de Bob Black. Non, Bob Black est tout un. Robert Noir.
Robert Noir.
On l'a reconnu quand même. Ça va être un pseudo quand même. Hein. Non, si.
Ouais, Bobcat, je sais pas.
Bobcat. Donc c'est un bouquin, oui, c'est un pamphlet hein, contre le travail et puis son corollaire de. C'est un peu comme le jingle de la chronique du Mercator, la misère et les nuisances du salariat. Hein, des et ouvriers.
Quelques chroniques assez anciennes hein, qui datent de quelques dizaines d'années. De Nicolas Flamel aussi sur le salariat, les grandis, l'arnaque du salariat.
Bien sûr.
Travailler à crédit pour un gars qui ne te respecte même pas.
Donc, je recommande cette lecture, même pour ceux qui sont. On essaiera de faire des.
Il y a une édition.
Des copies. Je n'ai pas noté d'édition dans ma petite fiche.
Bon.
C'est une erreur. C'est pas bien. Pas bien. Je n'ai pas noté dans la petite fiche que j'ai faite. J'ai fait
non, c'est pas bien grave.
Non, mais c'est bien d'en parler, parce que c'est relativement récent. Ça
en fait, on est en train de faire notre liste de Noël pour les auditeuristes là, qui nous écoutent.
Non, c'est bien, parce que ça donne aussi... Alors, on a vu, il y a des romans, on a des théoriciens qui, quand ils sont difficiles à lire, genre Bakounine, même Proudhon, il faut s'accrocher quand même pour...
Pour
lire les ouvrages.
Proudhon,
Après, les romans, c'est important parce que c'est des romans qui sont plus... aujourd'hui, qui ne sont pas aussi, aussi prisés. Hein. C'est des romans de la première moitié du XXe siècle.
C'est ça qu'on appelle les romans ouvriers.
Oui, on n'a plus la même façon de lire. On n'a plus la même... Enfin, genre, c'est très daté, quand même. C'est daté. Donc, à lire, c'est... faut vraiment rentrer dedans, s'y coller. Et puis, y a des choses plus récentes, des pamphlets. Alors celui-ci, là, de Bob Black, a 30 ans, un peu plus, 35 ans maintenant. C'est quand même relativement contemporain. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la critique du salariat. On a des... des ouvrages plus récents. Alors moi désolé, le titre, même le nom de l'auteur, j'ai lu ça il y a un mois, impossible de m'en souvenir.
Vous n'êtes pas intéressé.
Comment ?
Vous n'êtes pas rentré dedans.
Si, je suis rentré dedans, mais j'ai d'autres problèmes que problèmes de mémoire, de choses comme ça. Je me souviens de ce que j'ai fait il y a 30 ou 40 ans, je me souviens absolument pas ce que j'ai fait hier. On est sur... c'est un autre problème, ça. Donc voilà, ça va me revenir. C'est Carnet d'usine. Carnet d'usine.
Ouais, ça me dit quelque chose.
Carnet d'usine. Carnet d'usine. Et l'auteur, c'est son premier ouvrage, ça sera le dernier, parce qu'il est décédé. Je le recommande à lire. Hein, c'est... franchement, c'est écrit, c'est brut, et en même temps, ça donne complètement. Hein, c'est un monsieur qui fait des boulots en usine, notamment il travaille dans un abattoir, dans une conserverie en Bretagne, et il est confronté à la misère humaine, au malaise, Oui. Alors une réalité qui n'est pas celle de tout le monde, qui est celle des ouvriers qu'on pensait avoir disparu, avoir vu disparaître de, du paysage industriel français, mais ils existent toujours en périphérie, en moins grand nombre, sur des métiers...
En moins réguliers au sein de l'usine, il y a un turnover important, hein, parce
exactement.
Que ça ferme, ça rouvre, ça se rachète, ça se revend, ça diminue à chaque fois, on passe de 600 à 400 à 200 salariés... Oui. J'ai eu connu ça aussi. Ouais.
Et il y a un portrait du travail intérimaire qui est absolument affreux, quoi. On est sur c'est de la servitude, quoi. Ouais. De la servitude, et où la fatigue physique traduit aussi l'épuisement moral. C'est terrible, hein. Où on est obligé de trouver de quoi mettre de l'essence dans son auto parce qu'on n'habite pas à côté, parce qu'on ne peut pas habiter à côté, et que même 40 km quand on est en Bretagne, c'est compliqué à faire parce qu'il n'y a pas de transport. Donc on est vraiment dans une voilà, on est dans du de voilà, du oui, c'est des impasses, hein, mais en même temps voilà, il est allé jusqu'au bout de son expérience.
24 heures sur 24,
ça choisit la chose.
Ouais, c'est un.
Voir qu'il a ça à faire, ça. Ouais.
J'ai vu un petit extrait de sa vie en ce moment. Ça doit y avoir un anniversaire sur sa mort, où il est mort il n'y a pas longtemps, je ne sais pas.
Il est mort l'année dernière.
Ouais, ouais, ça doit être l'anniversaire, là, c'était passé. Fils d'ouvrier, qui a commencé ouvrier, les stages d'été, quand tu as 16, 17, 16 ans, je crois. Que tu peux déjà commencer à te faire exploiter à taux réduit à l'usine, avec effectivement une bonne ambiance éventuellement au sein de l'usine, qu'il a vu se dégrader aussi petit à petit, au fur et à mesure qu'on détruisait le mythe ouvrier, enfin la classe ouvrière tout simplement. Ça s'est fait, ça s'est fait ces dernières décennies. Et ouais, petit à petit, voilà. On est salarié, on travaille 5 ans, on finit par se faire virer, on a du mal à avoir le CDI. On fait un CDD, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5.
Quand tu vois les livres avec les gens qui ont travaillé dans le temps, et dans le temps ce qui se passe maintenant, on voit un peu le même trajet qu'on a avec les autres, ce qui s'est passé dans le temps passé.
Oui, on fait une espèce de retour en arrière historique.
Partir en arrière, voir ce qui se passe. Peut-être moins grave, peut-être moins...
Plus esthétique, moi, je dirais.
Oui,
c'est plus joli, quoi. C'est plus joli.
Oui, c'est... Non, pas plus joli. Quand... Moi, je me sens un livre qui parle de ce qui se passait dans le temps, la façon de trouver le travail, de nourrir sa famille, de se lever tous les matins en disant les choses à faire au fur et à mesure. Quand on rentre dans ce livre-là, on a l'impression de retourner dans le passé, comme vous avez dit. Mais aussi, c'est comme... on a l'impression de se sentir dans le personnage, dans la personne. Et de voir que quand eux, ils ont souffert, mais nous, maintenant, on souffre aussi, de peut-être pas de la même façon, de la même douleur, mais peut-être...
Ah ben alors il faut alors c'est, moi ça y est c'est revenu, c'est pas Carnet d'usine, c'est Feuillet d'usine, et le l'auteur c'est Pontus.
Oui, il racontait au jour le
Joseph
jour
Pontus,
oui,
Joseph Pontus.
Voilà.
Il y a une auditrice qui a appelé.
Ouais, ah merci.
Je n'aurai pas son prénom, mais elle n'était pas contente après celui qui avait perdu la mémoire.
Joseph Pontus. Merci, l'auditrice. Joseph Pontus. Oh, je me souviens de... C'est fou. Hein.
Ça vient comme ça. Ouais.
Oh là, ouais. Donc, Feuillet d'usine, où effectivement, on retrouve mais exactement les termes de la souffrance ouvrière. Avec... se lever à des heures pas possibles, dans des conditions de travail improbables, et puis pour des métiers qui sont durs.
Quoi. Puis pour un salaire qui te permet tout juste
de
vivre. Hein,
de misère, voilà, c'est ça. Pour aller jusqu'au lendemain.
Ouais, c'est ça.
Donc je vous recommande ce bouquin de Pontus, malheureusement décédé d'une maladie... un peu
mortelle, en tout cas.
Un peu mortelle, oui. que nous connaissons... Enfin, hein, donc vous pouvez imaginer le. Voilà. Et donc c'est.
Non, on n'imagine pas.
donc si vous voulez offrir, c'est en poche. Voilà, vous irez en votre librairie. Et vous verrez, c'est un ouvrage qui est quand même poignant. Hein. C'est-à-dire que quand, pour ceux qui ont travaillé en usine...
On nous fait réagir un peu.
Je sais, soit ça, bah, ça y a deux éventualités, soit ça vous terrasse parce que ça vous ramène à votre condition ouvrière, soit effectivement ça vous donne envie de blanquiser. Un petit peu, de blanquiser.
Ouais, tout péter.
De foutre tout cul par-dessus tête, quoi. Ouais.
Ouais, ouais.
Sortir de notre trou, comme on dit si bien.
Oui, regardez tout.
Ben parce que tu es beau et tu sens bon le sable chaud.
Tu es notre soleil.
Et tu nous donnes de l'espoir.
Voilà. Non, mais j'ai quelque chose à me demander ou quoi ?
Je vais me tutoyer.
Bon, et alors, je dois la lecture de ce bouquin à un collègue, que Fred, il se reconnaîtra s'il écoute l'émission, qui m'a dit lis ça, parce qu'on a souvent des conversations, c'est un des rares au travail avec qui je peux discuter autre chose que de travail. Même si je fais de la propagande en permanence, mais en fait ils sont sourds ou abrutis, j'en sais rien, peut-être les deux aussi.
Et ils ont peur peut-être aussi. Hein.
Aussi, oui. Oui, la peur, on en avait parlé lors de la dernière émission, c'est terrible. Hein.
C'est terrible la peur.
À ma grosse poule.
Ouais.
Bah, si, ouais.
On a peur quand on connaît pas ce qu'on affronte, en fait.
On a facilement peur quand on connaît pas ce qu'on affronte. C'est vrai. Et puis quand on nous laisse dans l'ignorance, bah du coup on a facilement peur. Ou quand on nous fait des injonctions inverses toutes les 4 heures, effectivement, c'est pire que l'ignorance, c'est la confusion la plus totale. Ouais, la peur, elle est là en ce moment. Enfin, je voulais remercier le petit restaurateur qui nous a laissé manger au chaud notre petit sandwich malgré l'absence du passe de la honte.
Bah, voilà. Faut pas donner le nom du restaurateur.
Non, bien sûr.
C'est pas la peine que qu'il ait des ennuis par la suite.
Voilà. Et ce que je dis ne vaut pas preuve de force ou force de preuve.
Oui. Force de preuve.
Ouais, merci.
C'est bien.
J'ai eu la Covid. Hein. Ah, okay. Ça m'a noyé du neurone. Ouh là là.
Bon. Et donc premier clin d'œil donc. Un copain de boulot qui m'a donné cette lecture et qui entre en pleinement hein, dans cette... Alors on est à la périphérie hein, des ouvrages libertaires, anarchisants. En tout cas, c'est du témoignage qui... c'est de la conscience ouvrière. C'est du témoignage et en même temps, pas forcément du militantisme ou alors c'est du militantisme par l'œuvre, voilà, pas du militantisme.
Tu veux dire qu'il s'est pas battu pour constituer une section anarcho-syndicaliste ?
Non, mais par contre, ce qu'il a écrit, c'est ce bouquin qu'il a écrit est.
C'est un témoignage important.
Bien sûr, oui.
Parce que
c'est
oui,
peut-être pour lui, ça a été la seule forme de réaction à son état d'ouvrier exploité. Quoi.
Puis sa contribution. Sa contribution révolutionnaire, on peut le voir comme ça aussi. Hein. Effectivement, on n'est pas obligé de mettre des ismes partout, comme certains, pour s'exprimer correctement sur ce qui nous arrive.
Et puis, le deuxième clin, donc là, c'est très contemporain, c'est 2020, je crois, Pontus. Et là, je vais refaire un saut en arrière. Et ça, c'est Fabrice qui m'en avait reparlé. J'avais lu ça quand j'étais étudiant, il y a fort longtemps, mais par extrait, sans... pour d'autres, voilà, à l'époque j'avais des travaux sur le XVIe siècle, c'est la Boétie. Et donc, pas loin de 35 ans après, j'ai relu quand on en avait parlé avec
Fabrice. Sur la servitude volontaire.
Voilà. Et je pense que c'est aussi un ouvrage fondamental qui a été écrit lorsque la Boétie avait quoi, 18 ans. Hein.
Oui, il a commencé à 17 ans, mais il a été terminé, il est mort à 30 ans et quelques.
Oui. Il était très précoce.
Donc il l'a repris entre temps, mais oui, c'est essentiellement à 17 ans. Oui.
C'est un ouvrage abouti avec une maturité et c'est exceptionnel. Hein. Comme quoi, alors la traduction, bien sûr, c'était publié en feuilleton, hein, pareillement, hein, par petits sous-chapitres, petites parties. Et puis il a été publié quelques années plus tard en un seul volume. Comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et sa diffusion a été quand même un coup de tonnerre dans le ciel de la littérature française. Ça lui a valu pas que des amis, d'ailleurs. Mais bon, on était au siècle de l'humanisme, donc il était jeune, alors...
Il a cru, quoi.
Mais c'était c'est assez révélateur, quand même, d'une analyse en profondeur de la société du temps. Et son analyse, alors ça, c'était moi qui le dis, mais vaut pour 2021 aussi. Mm-hmm. Avec, évidemment, tous les anachronismes, bien sûr. Entre 1576 et 2021...
Donne-nous un exemple moderne de servitude volontaire, que ça nous éclaire un peu.
Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple moderne?
Je sais pas, sur la glandémie, par exemple, il y a un truc qu'on peut rapprocher ou...
La glandémie.
Ouais, la pandémie, pardon.
La
glandémie. Ouais, enfin...
C'est plus basse.
Oui, on digresse, mais... On s'en fout, hein.
Bon, en tout cas, moi, ce que je... On va pas laisser de blanc comme ça. Mais c'est vrai que ce qui est malheureux à notre époque, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est qu'on peut avoir... On a accès à un certain nombre d'ouvrages du XVIe siècle, des auteurs allemands, canadiens, anglais, tout est peut-être traduit, et que personne ne connaît, en fait. Hein. Ça reste quand même... assez cantonné au milieu universitaire et libertaire, hein, tous ces ouvrages qui sont cités, toutes ces personnes que...
Mais t'as raison, parce qu'en fait, ils sont pas... Alors, la Boétie est rééditée, pourquoi ? Parce que souvent, ça fait partie des... Alors, à la marge, hein, des sujets... ou des textes qui sont demandés lors des concours d'agrégation, hein, que ce soit en histoire ou en lettres classiques
ou
en philosophie. Donc il y a forcément, on génère une demande, puis alors ça fait partie, parce que les universitaires sont pas des crétins quand même, ils sont là pour donner le panel le plus large afin de former les esprits au mieux. Mais bon, en dehors de ce public qui est quand même très restreint, la Boétie en première ou même en terminale, j'ai jamais vu, quoi. À la portée de tout le monde. Je n'ai pas vu un prof donner ça, moi.
Oui, alors que sur la liberté, c'est important comme point.
En fait, c'est le thème de la servitude volontaire. En fait, c'est l'idée, c'est que qui sous-tend le bouquin, c'est que en fait, on a l'impression qu'on est opprimé par des agents extérieurs, mais en fait, on a admis, par son éducation, par son environnement, on a admis sa propre oppression, comme allant de soi. Donc, en fait, il n'y a pas un maître extérieur. Si, il y a un maître, il y a un double maître. Il y a, le maître extérieur qui agit sur vous... mais il y a surtout il agit de moins en moins parce qu'en fait il a fait en sorte que par l'éducation, par l'environnement social, l'environnement familial, un être déjà soumis arrive à l'état d'homme. Et donc, il faut d'abord commencer en quelque sorte sa révolution intérieure, comprendre pourquoi on en est là, pour ensuite réagir à l'extérieur.
Quoi. Oui. Bon, déjà, ça passe en état intérieur, avant de voir la personne existe.
Oui, exactement. Oui.
Se libérer de ses chaînes.
Se connaître un peu avant de connaître ce qui se passe autre part.
Et savoir pourquoi on a admis sa servitude. Qu'est-ce qui fait qu'on est, on obéit sans se poser la question de savoir pourquoi on obéit, à qui on obéit et comment on obéit, et quelle est la finalité de tout ça. Alors évidemment, c'est des automatismes, c'est aussi des automatismes qui sont liés à des contraintes, à des exemples qui sont donnés dans le milieu familial ou social dans lequel on grandit. Mais on ne se pose jamais la question de savoir...
Le vécu qu'on a à l'école...
Qui est vraiment la personne qui nous contrôle.
C'est comment on en arrive à pas réagir à certaines situations parce qu'on a été conditionné pour. Et savoir pourquoi, par qui et comment on a été conditionné. Il faut remonter. C'est un psy, la Boétie. Sa démarche, c'est
la psychosociologie, oui.
C'est un psy.
Merci.
C'est psychosociologie.
Faut faire, lisez la Boétie. Lisez la Boétie. Il fait un tout petit ouvrage, très percutant.
Oui, bah comme, tiens, on en parlait avec Agnès tout à l'heure, elle demande quelque chose dans le train à un monsieur, parce qu'elle est malentendante. Alors elle dit, si vous pouviez me dire quand est-ce qu'on arrive à telle gare, que je sache où descendre. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il tourne la tête. Il fuit la conversation, pourtant c'est anodin. Il suffit de dire, bah, c'est la suivante, c'est celle d'après. Il fuit. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Pourquoi est-ce qu'il a peur? On va chercher. Peut-être qu'il a peur qu'elle lui donne un microbe, ou lui réclamer des sous, ou je sais pas quoi, ou reconnaître une paternité, enfin je sais pas. Voilà, ouais, tout ça, c'est des conditionnements qui sont acquis.
Les handicapés
sont acquis.
Toujours pris pour des personnes méchantes.
Ouais.
Les handicapés sont pris toujours pour des gens méchants. Maintenant, tout le monde en a peur.
Ouais, la différence, ça fait peur, effectivement. Et c'est quelque chose qu'on cultive, quoi, qui est cultivé dans les discours médiatiques. L'autre, il est dangereux. Puisqu'il n'y a que soi, l'unique, le seul être vivant qui soit digne d'être respecté, c'est soi-même. Les autres sont dangereux pour nous. Enfin, c'est le discours qui est un petit peu véhiculé. Pas par tout le monde, mais qui est repris massivement, quand même. Il me semble, hein.
Oui, voilà. Vous avez raison, tournez tous vous tous vers moi.
Oui, on cherche son assortiment.
C'est un petit peu ce que dit Stirner. Hein. Voilà, il n'y a rien au-dessus de moi.
C'est pour ça que je réponds.
Vers la lumière.
Unique.
Unique. Sans sa propriété.
The one.
Le...
Sors de ta grande boîte.
En fait, c'est le cocu, quoi. C'est le dindon de la farce.
Dis-moi, les auteurs des ouvrages... plus récent, publié par les anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires. On n'a pas cité, pas beaucoup.
Ben non, j'ai pas travaillé dessus. Après...
Il était malade.
Ils sont souvent cachés aussi, ceux-là.
Moi, je peux vous renvoyer aux dernières parutions de la librairie Publico. Ouais, récemment, ce qu'il y a...
Voilà, il nous reste quoi, 10 minutes? C'est ça? Moi, je voulais faire un...
Je suis bien sans transit. Tu commences à parler, on te coupe.
Non, je crois qu'elle est finie, tu dis il n'y a rien. Vas-y,
bah, vas-y.
Je t'en prie. Non, je t'en prie.
Allez-y, je m'en fous.
Vas-y, tu commences par dire il n'y a rien. C'est que tu n'as rien à dire, je ne sais pas. Vas-y, vas-y.
Bon, bah, dis-nous, Michael.
Ouais. Alors. Bon, si c'est la dernière émission qu'on fait, je pense que c'est bien qu'on termine par chronologiquement ce qui se fait maintenant. Ce qui se fait maintenant, c'est les résales sociales. On peut faire des petites vidéos, les poster, etc. Et il existe un grand nombre de petits groupes ou de personnes isolées qui font ce genre de choses, qui sont liées souvent à des écrits, d'ailleurs, parfois à des références historiques, comme on vient de parler, là, Proudhon, etc., Stirner, etc. Mais des fois, c'est beaucoup plus des choses de vie qui sont faites par des gens qui sont militants, par ailleurs... Dans leur vie de tous les jours, et qui transmettent comme ça éventuellement un grand nombre. Bon, ils ont 50 abonnés, les vidéos sont vues 500 fois. Alors, c'est pas une grande portée, mais quelque part, ça me rappelle un petit peu les petits fascicules qui étaient sortis à droit d'auteur et vendus 3 francs 6 sous pour se faire rembourser le papier et l'impression. Et je voulais en citer un, parce que je l'aime bien, c'est un gars sympa... et de la Franche-Comté, et ça s'appelle The Fred, il a une chaîne sur YouTube, et je trouve que c'est vraiment révélateur de ce qui peut se faire, et qui n'est pas dans l'idéologie ou dans le isme, comme tu nous disais tout à l'heure, Eric, les mots en isme, etc., c'est toujours un peu compliqué. Oui, Fabrice?
Non, mais continue.
Je ne sais pas, tu faisais des grands signes.
Pour ceux qui ne regardent pas.
D'accord. Ouais, non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Faire un petit coup de pub comme ça, si vous êtes curieux, allez voir The Fred, Z-E-F-R-E-D, sur YouTube. C'est ça. Voilà. Après, si vous cherchez des choses de cet acabit-là, c'est plus facile de rechercher par sujet. Il y a un algorithme qui vous propose les choses par sujet. De même sur les autres plateformes. Parce que... Voilà, après, faut connaître et tout, mais par sujet, par hasard, par analogie de sujet, on arrive comme ça à trouver des petites perles de choses dont on se doutait pas, des moments de vie, des, voilà, comme tu disais, les carnets,
feuillets d'usine.
Feuillets d'usine, voilà, feuillets d'usine. Et moi, je trouve ça passionnant.
Et ben on va quitter le 21e siècle, ou plutôt on va quitter le survol du 21e siècle, c'est rapide, qui clôt notre troisième opus sur la propagande libertaire. Et nous, sans transition, nous passons au billet d'humeur.
Et maintenant à nous.
Si on n'était pas d'accord.
Tu vas voir que c'est pas possible.
J'ai adopté le système le plus simple. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein?
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout.
C'est pourtant pas leur genre.
Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
On peut dire que tu en es un.
Un quoi?
Ce billet d'humeur, vous l'aurez compris avec le jingle, est absolument consacré aux cons. À l'occasion de mes recherches sur la propagande libertaire, je suis souvenu qu'une confédération concurrente à la glorieuse CNT des Vignoles avait un canard propre. Enfin propre, je l'ai trouvé dans les poubelles du numérique. Autre futur point net, que l'on pourrait tout aussi bien appeler notre futur pas net. Le journal de la Confédération nationale des travailleurs, à ne pas confondre avec la Confédération nationale du travail. Vous noterez la subtilité. Donc, un de leurs articles loue un logo à une symbolique réussie pour la naissance de l'UCL. L'UCL, c'est anciennement Alternative Libertaire, elle-même anciennement UTCL. La nouveauté n'est donc pas dans la mouvance, mais dans le choix du logo. Idem de la CNT Solidarité Ouvrière, qui prétend faire du neuf avec de l'ancien. Bref, le logo que j'avais de prime abord pris pour un pigeon sera en fait un merle. Sa particularité souligne l'obséquieuse CNT en quête de partenariat militant serait dans le sens du bec du volatile. La CNT Vignoles, avec un seul L, ignare d'autres futurs points naître, a comme logo de reconnaissance un chat noir. Mais l'auteur de l'article déplore, pour ce félin, l'auteur ce serait Jean-Louis. Je croyais que c'était un de leurs potes, enfin bref. Où en suis-je ? L'auteur aurait eu bonne grâce de respecter les codes de l'écriture de sa grammaire visuelle en faisant regarder l'animal vers la droite, signe de progression, plutôt que vers la gauche, signe de retour vers le passé. C'est UFD ? Nous, syndicalistes révolutionnaires et anarcho-syndicalistes, n'oublions pas le passé. Ni ancien, ni récent. C'est pourquoi nous avons délibérément fait le choix de ne pas avoir de permanents syndicaux rémunérés sur les cotisations des adhérents, ni de mettre en place une bureaucratie au sein du syndicat qui permettrait aux fonctionnaires syndicaux de privilégier son gagne-pain et son poste de feignant à la conjoncture si la conjoncture étatique laissait entrevoir la possibilité d'une représentativité bien plus rémunératrice. Nous n'oublions pas non plus comment se passaient les séances d'Union régionale parisienne, où les congrès confédéraux, notamment celui de Saint-Denis, où quelques rares fois le syndicat du nettoyage envoyait un mandaté issu du terrain pour faire oublier les habituels mandarins de type caucasien. Ni comment le Manitou, campant à l'arrière du kidam exotique, tirait les ficelles du pantin qu'il avait sous sa férule. Que l'on nous fasse pas croire que les adhérents de la CNTSO sont des anarcho-syndicalistes, comme le stipule leur statut. Le CIAL RP dénonçait déjà dans les congrès régionaux de 2004 et 2007 le néocolonialisme de ces opportunistes qui prospéraient auprès des foyers de travailleurs africains en se créant une clientèle facile parce que désœuvrée. Alors ce n'est pas l'orientation de la queue du chat qui fait le syndicalisme révolutionnaire. Et si l'on s'en tient au symbole, je rappelle toutefois que celui de la CNTSO, ce sont deux mains qui se joignent, permanent syndical et hiérarque patronal, main dans la main.
Bah.
Vous aimez la radio ? Marre de la pub ?
Vous êtes libertaire ?
Marre des radios étatistes ?
Marre des capitalistes qui orientent l'information.
Alors soutenez Radio Libertaire.
Téléchargez le bon de souscription sur radiolibertaire.net. Retournez-le à Radio Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 11e, accompagné d'un chèque ou d'un virement à l'ordre de DMC. Radio Libertaire, 89.4 MHz.
La radio autogérée de la Fédération anarchiste.
La voix sans Dieu, sans maître
et sans publicité. Puis, bon, lis ton truc.
On prend le truc.
Ouais, attends. Alors, alléluia.
Oui, retour à l'antenne. Si votre compte, précision, si votre compte bancaire n'est pas suffisamment approvisionné, eh bien arrêtez les prélèvements pour ne pas nuire à la trésorerie de Radio Libertaire, s'il vous plaît. Voilà.
Oui, alors on n'a pas spécialement d'annonce à faire, si ce n'est le soutien aux camarades de People and Baby, toujours. On l'a fait refaite. Donc, on la redonne ou pas? Oui, parce que là l'heure tourne, ouais, il est 21h, ouais. Je crois qu'on va laisser faire laisser la place à Jean-Manuel.
Parce que l'anarchie, c'est pas l'anomie non plus.
Donc bah, vous retrouvez sur le site de la CNT Région Parisienne et de la Confédération l'appel à la défense à souscription des camarades de People and Baby, qu'on compte bien inviter un jour à notre émission. Hein,
en tant qu'ancien animateur, je vote pour.
Ben aussi, moi j'ai lancé l'appel, mais...
Bah, attendons le retour.
Ouais.
Bien, chers auditeurs du Monde Merveilleux, nous concluons par un petit au revoir, n'est-ce pas?
Oui, alors, oui, au revoir, c'est-à-dire
ben,
Ah oui, on va dire au revoir. Bah, avant, tiens, justement, puisque c'est
la
période...
Au revoir 2020.
Puisque c'est la période...
Au revoir 2020.
Et puisque c'est la période des fêtes, puisque Jean-Manuel n'a pas encore ouvert la porte...
Si, ça y est.
Pour prendre la place.
Faut qu'on s'en aille.
Qu'il entre, qu'il nous chasse. Hein, si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, puisque c'est la période des fêtes... Juste une petite seconde que je chausse mes lunettes. Voilà, il y a le jeu, un jeu de plateau créé par la Horde qui s'appelle Antifa. Ah voilà, oui. Des éditions Libertalia. Une boîte de 24 pièces à 30 euros. Voilà, un jeu de plateau de simulation de gestion dans laquelle vous faites vivre un groupe antifasciste local. Voilà.
Ouais, qu'on peut trouver à Publico, j'imagine.
Bien sûr, 145 rue Amelot.
Et puis, si vous n'avez pas trop de sous, bah, achetez donc Pontus, ouais. Feuillet d'usine.
Aux éditions
Biblio,
je crois.
Biblio. Peu importe, pourrait le titre et l'auteur.
Bon, on lance le générique de fin et on va laisser la place au Protons Rebif. On leur a bouffé une minute déjà.
Eh ben, bonne fin d'année. Et d'ici là, syndiquez-vous si c'est pas déjà fait.
Salut. Allez.
Je flirtais avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la
révolution.